Frères et sœurs, je salue ceux qui nous rejoignent et je souhaite à chacun de vous la bénédiction de Dieu sur votre vie. Nous sommes là et nous travaillons ensemble pour arriver devant le Seigneur un jour sans tâche, irréprochable, et pour que sur la terre nous servions le Seigneur avec joie, sans crainte. Notre vie, c'est être avec le Seigneur. Nous sommes nés pour cela, et nous sommes nés une deuxième fois dans la nouvelle naissance pour cela. Et tout ce qui ne va pas dans ce sens sera perdu. Tout ce qui va pour le Christ est éternel. C'est lui le maître du monde, et de l'Église, et de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais regarder une histoire quand même un peu unique dans toute la Bible. C'est dans 2 Corinthiens, et tirer de cette histoire quelques leçons brèves. 2 Corinthiens, chapitre 12, nous avons tous entendu parler de l'écharde de l'apôtre Paul. Je pense que si c'est écrit dans la Bible, c'est parce qu'il fallait que ce soit écrit. Il aurait pu cacher ça, parce que, en fait, j'ai rien à vous dire sur cette histoire. C'est bien, j'ai rien à vous dire. Mais si c'est écrit, c'est parce que Dieu voulait que ce soit écrit. Et puis avec le peu que nous a laissé l'apôtre Paul, réfléchir pour nous, pour moi, pasteur, et pour vous aussi, enfants de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. Je lis donc 2 Corinthiens, chapitre 12. Alors, évidemment, la phrase est un peu coupée, hein. On est obligé de prendre en route, parce qu'il parle de toutes les misères qu'il a reçues, cet apôtre, dans son ministère. Alors, il aurait pu s'en faire une gloire de ça. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, je vous le dis, je vais tout vous dire, cet homme, c'est lui. Je connais un homme, mais c'est lui. En Christ, un chrétien, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Il se répète, hein, Dieu le sait. Donc, je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, le Seigneur, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Bénis ta parole, ton serviteur, mes frères, mes sœurs, les personnes qui nous visitent ce matin, bénis-nous chacun, nous sommes devant toi, parle, nous t'écoutons Seigneur, amen. Qu'allons-nous dire de cette histoire de Paul qui monte au ciel, il ne sait pas si c'est avec son corps, sans son corps, bon il a vu le paradis, moi je ne l'ai jamais vu. Ce que je vais dire, premièrement, c'est que des faiblesses de la vie peuvent permettre de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, il y a une nurserie, pour, je le répète, parce que parfois, des frères et sœurs ou des amis passent, et une nurserie tout à côté. Nos faiblesses ne sont pas des obstacles pour notre vie chrétienne. Il y a des faiblesses qu'on garde dans la vie toujours. Et on voudrait que Dieu nous en délivre. On voudrait la puissance de la libération. Oui. Mais ces faiblesses n'empêchent pas les bénédictions et parfois permettent à Dieu de nous donner davantage. Je pense à Moïse qui a passé, ce prince d'Égypte, 40 ans dans le désert. 40 ans où il a été réduit, je ne dis pas réduit, être berger c'est un métier noble et beau, mais il s'est vu diminuer par rapport à l'Égypte, à être berger pendant 40 ans, mais Dieu le formait pour qu'il soit serviteur de Dieu, de l'Éternel. Je pense à Joseph qui croupit dans sa prison en Égypte, un homme intègre, bon, juste. Mais Dieu le formait pour qu'il devienne le sauveur de l'Égypte. Je pense à Jacob, qui va devenir tout boiteux, cet homme fier, superbe, qui devient boiteux, mais Dieu va faire de lui le patriarche de son royaume sur terre, Jacob. Et je pense à Paul. Il y a un ange de Satan, un démon qui le griffe, qui le pique, qui le gifle, souffleté. Tchouf, tchouf. Les soufflets sont des gifles. Parfois, quand on est enfant, j'en ai pris. Ça fait du bien, ça nous remet droit. Il y a un ange de Satan qui gifle l'apôtre Paul. Paul dit, c'est une écharde dans ma chair. Une écharde, c'est une pointe pour percer, pour déchirer, pour... C'est comme une lance, c'est comme le clou de la croix. Cette écharde, c'est comme si c'était la croix de l'apôtre Paul qui le blesse, qui le déchire. Il y a un ange qui le torture, un ange de Satan. Pourquoi ? Dieu ne fait pas en sorte que cet ange soit chassé, puis c'est terminé. Cet ange de Satan, il est là avec cette infirmité douloureuse dans sa chair. Alors peut-être que sa chair, ça veut dire que l'apôtre Paul avait une infirmité. Peut-être que quelque chose de sa vie était très douloureux. Il n'était pas dans une excellente forme. Je ne sais pas, c'est compliqué. Moi je pense aussi que cette écharde qui le déchire, qui le pique, qui le gifle, c'est peut-être aussi toutes les souffrances de son ministère d'apôtre. Enfin, tout cela, pourquoi ? Pour l'empêcher d'être orgueilleux. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai rêvé. Moi, j'étais au ciel. Non, il a été giflé, persécuté, pour dire, je suis rien. Je ne peux rien faire sans Jésus, je ne suis rien. Afin de rester humble. Il est giflé par cet ange de Satan pour empêcher l'orgueil. Car l'orgueil, c'est la ruine de la vie chrétienne, c'est la ruine du ministère. Mais quand je vois ça, je me dis que l'apôtre Paul ne pouvait pas rester humble et simple tout seul, en comptant sur ses études supérieure, en comptant sur son expérience, en comptant sur sa prière à lui. Il ne pouvait pas rester simple et humble. L'orgueil est une puissance terrible, qui est plus forte que nous. On le voit aujourd'hui dans le monde. Le pouvoir, la supériorité, c'est le flambeau du monde. Et puis cet ange de Satan, quand on dit un ange de Satan, ça veut dire forcément que cet ange devait le tenter. Satan devait lui dire, mais t'es rien. Tu ne peux rien si tu es apôtre. Pourquoi tu es comme ça? Il est maltraité, il est humilié, il est insulté par tout ce qu'il vit. Paul, le persécuteur des chrétiens, il est persécuté lui-même. Paul, qui a persécuté Jésus, qui a fait mal à Jésus, quand on touche à un chrétien, on blesse le cœur de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, Paul, qui a persécuté l'Église et Jésus, il est persécuté. Il est jeté dans un abîme de souffrance et il ne se plaint pas. Il a compris pourquoi. Mais cet ange de Satan qui le poursuit partout, il dit dans les déserts, dans les chemins, dans les villes, avec des faux chrétiens, dans les naufrages, dans les coups, on l'a lapidé plusieurs fois. Tout ça, c'est ça, la persécution de Paul. Mais tout cela, ça l'oblige à rester en prière, à veiller sans cesse. Toutes les difficultés de ma vie, de mon ministère, m'ont obligé à prier sans cesse, à rester à genoux et à dire « Seigneur, vous connaissez par cœur, sans toi, je ne peux rien faire. » Mais à le vivre intensément. Toutefois, l'apôtre Paul reste joyeux dans ses épîtres. Ce n'est pas un pleurnichard, ce n'est pas quelqu'un qui dit « c'est injuste ». Il vit quelque chose d'utile pour lui, pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Et je pense au psaume 31, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Ce n'était pas du jeu ce qu'il vivait. Tu sais que ma vie se consume dans la douleur, mais je serai dans la joie et l'allégresse. Cette écharde l'empêche d'être orgueilleux. Alors, je le répète, ces prières ne suffisent pas. Toute sa connaissance ne peut pas empêcher l'orgueil de pointer son nez dans son cœur avec tout ce qu'il a vu là-haut pendant quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas. L'orgueil se glisse dans notre cœur facilement. Et si l'orgueil commence, il n'y a plus de ministère béni, il n'y a plus d'église bénie, il n'y a plus de chrétiens bénis. Il faut rester simple, humble, discret, doux. Apprenez de moi, dit Jésus, je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur lui avait dit à l'apôtre Paul quand il s'est converti sur le chemin de Damas, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Il va souffrir toute sa vie. Et le Seigneur lui dit, « Va lui montrer là-haut quelque chose qu'il ne nous a pas dit. » Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a été ravi comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Mais lui, il a été ravi dans le ciel, il est monté dans le ciel sans être mort. Il ne sait pas, il a du mal à savoir si c'est avec son corps ou sans son corps. Voyez-vous, il n'est pas très au fait sur tout ça, mais il est monté au troisième ciel, il est monté dans le paradis, et là, il a entendu des choses, il a vu des choses. Cette visite dans le ciel d'un être vivant, c'est un mystère. C'est un des mystères de la Bible. Alors regardez un peu l'histoire. Dieu élève cet apôtre qu'il a choisi malgré ses péchés. Il l'a choisi pour être un des chefs de son Église. Il l'a élevé tout en haut et puis il l'abaisse très bas. Avec tout ce qu'il vit de difficile, il l'abaisse dans un état de déshonneur, de déchéance publique. Il dit « Nous sommes les balayeurs du monde, je ne suis rien, je suis le moindre de tous. » Il est abaissé, il vit des choses difficiles. Mais dans tout cela, il garde confiance, il garde patience. Et je vous invite, frères et sœurs, à réfléchir pour nous-mêmes. Je pense que tout ce qu'on vit de difficile, c'est utile certainement entre les mains de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, on voudrait être super, premier aux Jeux Olympiques, avoir les enfants les meilleurs du monde, la femme la plus belle du monde, le mari le plus formidable du monde, et puis le métier le plus beau, mais ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cela, eh bien, c'est utile entre les mains de Dieu pour nous façonner, pour nous conduire à aller plus loin. Et je pense qu'à travers ces souffrances, Paul a été gardé d'un plus grand mal. Il a eu mal, mais il a été épargné d'un plus grand mal, qui est l'orgueil. Alors, je parle pour moi, je parle pour nous. Si l'apôtre Paul a eu besoin d'un tel remède, vivre toute sa vie dans les difficultés, toute sa vie il était poursuivi. Si l'apôtre Paul a eu besoin de ça pour se garder de l'orgueil, qui peut se croire fort parmi nous? Qui peut dire, moi, au niveau de l'humilité, je crains rien, je suis le meilleur. Qui peut se croire fort? Qui peut se croire parfait devant le Seigneur? Paul a eu besoin de ça. Mais l'ange de Satan, il devait être terriblement malheureux. Parce qu'il était avec un homme qui se gardait dans l'humilité, dans la simplicité. Et lui, l'ange de Satan, il est devenu un ange de Satan parce qu'il est tombé dans l'orgueil, justement. Ça devait lui parler quand même. Paul, il résiste, et moi, dit l'ange, je n'ai pas résisté. J'ai quitté le Seigneur, j'ai abandonné son royaume, et je suis devenu un être épouvantable. Et Dieu va s'en servir. Étonnant. Cette révélation du ciel là-haut, je ne dis pas un mot, hein. Pardonnez-moi, je ne vais pas dire rien, rien. Mais cette révélation, elle a été tellement forte sur Paul, tellement puissante, qu'il n'a pas le droit de nous en parler. Il n'a pas le droit de nous en parler. Même s'il voulait en parler, il ne pourrait pas le faire. Ça dépasse tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris. Il a entendu quelque chose. Alors, parfois, les gens disent, « Ah, si quelqu'un revenait, au moins, je croirais. » Eh bien, écoutez, Moïse est revenu à la transfiguration, il n'a pas dit un mot. Et voilà. Élie est revenu à la transfiguration avec Jésus, il n'a pas dit un mot. Même Lazare, qui a été réanimé seulement, il n'a pas dit un mot. Et puis Paul, qui s'est promené dans le paradis, paradis, ça veut dire avec le brigand sur la croix, qui est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Paul, qui s'est promené là-haut avec toute l'Église, les premiers apôtres, les premiers chrétiens, et tout Israël, tous les gens sauvés, il n'a pas dit un mot. Il ne dit pas, moi j'ai vu, moi j'ai rêvé. Il ne dit rien. Je connais un homme qui a été pris dans le ciel. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai le droit de rien dire. Le Seigneur nous montre là qu'il se passe dans le ciel des choses que nous ne connaissons pas. Il y a une gloire cachée qui nous attend et qui sera révélée quand Jésus reviendra. Nous ne savons pas tout. Et si l'apôtre Paul avait voulu dire un mot, je pense qu'il n'aurait simplement dit « Le Seigneur est allé nous préparer une place et il nous prendra avec lui ». Il aurait dit des mots de l'Évangile. Et moi, je n'ai pas à aller au-delà de l'Évangile non plus. Je n'ai pas à me prêcher moi-même. Je n'ai pas à prêcher mes petits rêves. Je n'ai qu'à prêcher la parole de Dieu qui cache elle-même un grand mystère. Il a vu ceux qui sont décédés là-haut. Il a vu tous les saints et tous les justes, tous les rachetés. Il a vu la beauté du ciel et il n'en dit pas un mot. Il a vu certainement les prophètes, les patriarches. Il n'en dit pas un mot. Mais je pense qu'il a dû tirer de ce voyage qu'il a fait là-haut, il a dû en tirer une force, la foi. Il a dû être... D'ailleurs, il dit dans l'Épître aux Philippiens, « Je regarde toutes choses comme de la boue pour gagner le Christ et pour connaître la puissance de sa résurrection. » Il en a tiré des leçons. Si nous voyions le ciel ouvert, mes amis, on ne se battrait pas pour un mètre carré, une clôture, pour une bricole, une rayure sur la voiture. On ne se battrait pas avec sa femme ou son mari ou ses enfants. Si on voyait le ciel ouvert, je pense qu'on dirait comme l'apôtre Paul, « Je regarde toutes choses comme de la boue pour gagner le Christ et la puissance de sa résurrection. » Si on voyait le ciel ouvert, mes amis, eh bien, on dirait comme Paul, « La mort m'est un gain. » Partir avec le Christ, c'est de loin le meilleur. Il sait ce qui se passe là-haut. C'est calme, c'est beau, c'est grandiose. C'est, il n'y a pas de mots. C'est ineffable, on ne peut pas en parler. Mais nous croyons dans le Seigneur, amen. Nous mettons notre confiance en Dieu. Mais Paul, au début, s'est défendu contre cet ange qui le martyrise. Il a prié trois fois en demandant à Jésus d'éloigner cet ange qui l'afflige, qui le persécute, qui le poursuit chaque jour. Et le Seigneur ne l'a pas délivré, mais il a répondu. Le Seigneur ne nous délivre pas comme on veut, mais il nous répond. Il a répondu à Paul, je vous dis ça, je l'explique, « Je ne te délivre pas de cet ange qui te persécute, je ne te délivre pas de tes naufrages, de tes accidents, de tes troubles, de tes détresses, je ne te délivre pas, mais ma grâce est avec toi. Amen. Ma grâce te suffit. Avec ça, tu continueras, tu feras, tu établiras mon royaume, tu prêcheras l'évangile. » Le Seigneur ne le délivre pas de l'ange, de Satan, mais le Seigneur le délivre de l'orgueil. Je dis, Paul a reçu un don d'humilité. Paul a reçu un don d'humilité. Et si, parfois, il pouvait être tenté de dire, moi, aussitôt, boum, 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 ça tombait. Ça faisait mal. Et le Seigneur le gardait ainsi, dans l'humilité. Dieu a donc des projets plus vastes que nos prières de délivrance. Dieu a des projets plus vastes qu'une vie bien confortable et bien réglée, et bien tranquille et limpide. Il a des projets pour que les autres connaissent son amour. Parce que Dieu a un grand projet pour l'humanité, ne l'oublions pas. Et ce projet, c'est de communiquer son amour qui sauve, communiquer sa grâce qui nous remonte de l'enfer. Et pour que cette puissance d'amour se déploie en nous, il faut que notre « moi » soit brisé. Paul, il ne dit plus « moi, moi, moi ». Paul, il a été brisé dans son être afin que la beauté de ce qu'il porte en lui soit vue et entendue. Qui suis-je? Je suis le moindre. Je ne suis rien. Voilà comment Paul parlait, comment Moïse parlait, comment Jérémie parlait, Jacob, etc. Dur, hein? Enfin, on ne va pas aller comme Paul, on a nos petites misères à nous. Le Seigneur les emploie. Mais quand même, dites donc, je termine. Paul, au niveau des travaux, je suis le meilleur. J'ai fait plus que vous. Au niveau des coups que j'ai pris, là je vous bats. Au niveau de la prison, là je vous bats. Au niveau d'être battu, lapidé, bien là, je connais, je sais ce que c'est. Attaqué par les brigands sur la route, attaqué dans les villes, dans le désert, poursuivi, attaqué, terrassé, blessé, des chagrins, des peines, des tristesses, avec des faux chrétiens. J'ai connu la faim, le froid, la mer, l'abîme, presque la noyade, la lapidation. Je crois que Dieu, à travers ça, veut dire à Paul, « Regarde, Paul, sans moi, tu ne peux rien faire. Reste simple, reste doux, reste humble. Mets sur toi des sentiments d'humilité, de douceur et de patience, car regarde ta vie, c'est une blessure, mais tu comptes sur moi. Tu ne t'appuies plus sur toi, tu ne peux pas. Tu t'appuies sur moi. Et quand on s'appuie sur le Seigneur, eh bien, on est plus que vainqueur. Amen. » Et Paul, vous me suivez si vous voulez. Il a appris à aimer ce qu'il vit. Il prend des coups, des trahisons, des superbes afflictions. Il a aimé ça. Pas parce que c'était un jeu, comme si on ne sentait rien. Non. À chaque fois, Paul est terrassé. Il est dans la détresse. Il pleure, il souffre, il gémit. Mais il aime ça. Parce qu'il sait qu'à travers ça, eh bien, le Seigneur l'utilise pour la gloire de son nom. Amen. Il est fort. Fort pour tenir la parole. Fort pour tenir l'œuvre de Dieu. Fort pour tout supporter, fort pour prier. Alors il ne se plaint pas de ce qu'il vit, parce qu'il sait qu'avec ça, il devient un serviteur de Dieu, utile au Maître. Amen. Regardez comment le Seigneur travaille son Église, les uns et les autres, hein, parce que bon, Paul, c'est un peu grand pour nous. Mais je crois qu'avec chacun de nous, Dieu nous travaille, nous enlève des folies, des tentations, des cupidités, des avarices, des impuretés. Il nous travaille pour qu'on soit des vases d'honneur. Le Seigneur agit dans son Église. Amen. Il agit. Et je crois qu'il agit aussi avec moi et avec vous. Amen. Je crois que l'Église, ce n'est pas un troupeau qui marche tout seul. Le berger est avec chaque brebis. Je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. Il sait vos tentations, il sait vos déviations même, il sait ce qui vous trouble, ce qui ne va pas, ce qui ne fait pas de vous un bon chrétien, une bonne chrétienne, et il travaille. Il faut qu'on tienne compte de tout ça. Il ne faut pas que l'on regimbe contre Dieu. Ah, pourquoi Dieu permet? Ah, pourquoi Dieu ne fait pas? Il faut prier, toujours prier, et laisser le Seigneur agir. Amen. Ah. Chrétien, ce n'est pas simple. Hein. Parfois, j'ai entendu des gens dire, quand on est chrétien, tout va bien. Moi, j'ai envie de dire parfois, tout va mal. Mais on porte le bien, le trésor dans des vases de terre. On porte Jésus dans nos vases de terre. Oui, fragile, un vase de terre, mais Jésus ainsi, il est encore plus visible. Je voudrais prier le Seigneur avec vous. Ma prière ce matin, c'est qu'à travers tout ce qu'on vit de difficile, que nous soyons porteurs de l'amour de Dieu, que nous soyons fidèles à l'Église, fidèles à notre famille, fidèle à son peuple, fidèle au Seigneur. Je veux compter sur lui et j'aimerais qu'il compte sur moi. Amen. Nous prions, Dieu, ensemble. Merci pour ton serviteur Paul, que tu as utilisé malgré ses défauts. Tu l'as utilisé pour l'Église, pas seulement la première, mais toute l'Église de tous les temps. Et tu lui as montré ce que seuls les morts peuvent voir en Christ, afin qu'il soit fort, encouragé, et qu'il nous laisse entrevoir une lumière inaccessible. Nous le ressentons, quelque chose de très très grand, très très beau nous attend. Quelque chose qu'on n'aura jamais pu, jamais, jamais imaginer. Seigneur, je crois que tu nous prépares une immense surprise. La grande surprise, c'est que nous serons semblables à Jésus. Bénis-nous ce matin. Ôte de nos cœurs les péchés, les souillures, les contrariétés. Ôte de nos cœurs les sentiments mauvais. Nous voulons nous convertir. Nous voulons te dire, agis en nous et fais de nous des enfants de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, Paul, il n'aimait pas parler de lui. Je connais un homme. Quand j'ai étudié hier ce texte que je connais bien, cette nuit, je lisais la Bible, mais pas comme d'habitude. C'est étrange. Hein? Je me disais, je ne sais rien. Je disais, je ne sais rien. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je connais presque rien, tellement ça me dépasse. Et je me dis, il faut que ce matin, je dise à ton Église qu'elle se prépare pour la venue de Jésus. Il n'y a pas que nous qui le disons, dans le monde entier, toute l'Église chrétienne, au sens large, on ressent que ce paradis-là, il va s'ouvrir bientôt, et que nous serons tous ensemble enlevés avec le Seigneur. Amen. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit virgule, et nous serons tous ensemble, avec nos parents et nos grands-parents. Oh, ma grand-mère que j'aimais tant. Ma sœur que j'aimais tant. Nous serons ensemble. Amen. Il y aura des départs au milieu de nous, peut-être dans les mois qui viennent. Mais nous savons où ils vont. Et nous savons si la mort devait nous prendre. Nous savons où nous allons. On ne vit pas complètement aveugle. Un bandeau sur les yeux, on vit en sachant qu'on se prépare, Dieu nous prépare, pour qu'on soit devant le Seigneur irréprochable. Et le Seigneur nous confessera devant son Père et devant ses anges. Il dira, regardez, celui qui rentre là, c'est ma servante, c'est mon serviteur. Ben, je voyais hier soir, j'ai pas dû l'apprendre plus tôt. Billy Graham est parti avec le Seigneur. Je crois qu'il a dû parler au moins, il a dû témoigner à 10 millions de personnes, au moins. À tous les rois, gouvernements, les reines, les présidents, il remplissait des stades de 30 000 personnes partout. Et voilà. Il a laissé un dernier message, puis il est rentré dans le paradis de Dieu. Et le Seigneur a dû dire, regardez mon serviteur, il a été fidèle jusqu'au bout, qu'il entre dans la joie de son maître. Merci au Seigneur pour cet homme, il avait 99 ans, et resté lucide jusqu'à la dernière minute. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.